l'écoute de Radio France Internationale. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel.
Le journal.
En français facile.
Sophie Pouzrat.
Nous sommes le vendredi 12 avril, bienvenue sur RFI, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Et dans ce journal, on reviendra sur le sommet entre les États-Unis, les Philippines et le Japon qui s'est tenu ce jeudi. Une rencontre pour affirmer leur entente sur le plan militaire, surtout face à la Chine. Notre journaliste Justine Fontaine sera en direct pour en parler avec nous. Les États-Unis qui redoutent une escalade de violence au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël. Pour Washington, les menaces de représailles de Téhéran sont, je cite, « réelles et crédibles ». À la une, également un nouveau voyage du pape François est prévu. Le chef de l'Église catholique effectuera une tournée en Asie au mois de septembre, le Vatican l'a confirmé. Malgré les inquiétudes sur la santé du pape. Et puis, les hôpitaux de Strasbourg, dans l'est de la France, ont trop de patients, le service des urgences est trop chargé et les syndicats demandent plus de moyens. Vous l'entendrez tout à l'heure dans cette édition. Un sommet inédit s'est tenu à Washington ce jeudi. Pour la première fois, les dirigeants américains, japonais et philippins se sont réunis pour une rencontre officielle. Joe Biden, Fumio Kishida et Ferdinand Marcos Jr. ont réaffirmé leur partenariat militaire face à la Chine. Une rencontre qui arrive après une série d'incidents en mer de Chine méridionale. Les États-Unis et le Japon en ont aussi profité pour annoncer une série d'investissements aux Philippines, Justine Fontaine.
Oui, Washington et Tokyo vont investir, vont financer en partie un grand projet d'infrastructure pour mieux connecter, mieux relier Manille, la capitale des Philippines, avec trois autres villes, trois grands pôles économiques du pays. On parle d'investissements dans le transport ferroviaire, par le train donc, et d'investissements pour moderniser des ports qui existent déjà. Autre annonce, une entreprise américaine va développer aux Philippines de petits réacteurs nucléaires. Enfin, Washington va investir dans la construction d'une usine de raffinage de nickel, c'est-à-dire une usine qui va transformer du minerai brut pour qu'il puisse être utilisé ensuite dans l'industrie. Les Philippines sont le deuxième producteur mondial de ce métal qui sert à fabriquer de l'acier inoxydable et de plus en plus des batteries électriques.
Alors, l'objectif de ces annonces, Justine, c'est de montrer le rapprochement des Philippines avec les États-Unis et le Japon.
Oui, Manille renforce depuis quelque temps ses relations militaires et commerciales avec ces deux pays alliés que vous avez cités. Il est vrai que la Chine reste le premier partenaire commercial des Philippines, mais les tensions dont vous parliez en mer de Chine méridionale ont tendance à peser sur les échanges avec Pékin, à affecter les relations commerciales.
Merci beaucoup, Justine Fontaine. Et pendant ce sommet, les États-Unis ont aussi formulé des avertissements à propos des événements qui ont eu lieu en mer de Chine méridionale et la Chine a réagi. Pékin assure que ces actions sont, je cite, « légitimes, légales et irréprochables ». Les États-Unis ont aussi réagi aux tensions qui montent d'un cran au Moyen-Orient. Washington, comme l'ensemble de la communauté internationale, redoute une escalade militaire dans la région depuis la frappe israélienne sur le consulat d'Iran à Damas, en Syrie. Il faut dire que Téhéran promet des représailles et pour les États-Unis, ces menaces sont, je cite, « réelles et crédibles ». De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirme que les États-Unis et Israël se tiennent côte à côte face à ces menaces. Et face à ce contexte, la France, de son côté, recommande aux citoyens français de s'abstenir impérativement de voyager en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. En parallèle, Israël continue de lancer des raids meurtriers sur Gaza. Ce vendredi, le bilan est monté à 33 634 morts au total depuis le 7 octobre dans l'enclave palestinienne, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le pape François repart en voyage. Le Vatican l'a annoncé ce vendredi. Le chef de l'Église catholique partira en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour du 2 au 13 septembre prochain. Un périple de 30 000 km confirmé malgré la santé fragile de François. Les précisions de notre correspondant Éric Sénanque.
Après la Corée du Sud, les Philippines ou encore le Japon, le pape François va donc ajouter une nouvelle tournée en Asie à la liste de ses voyages apostoliques. Des pays très différents où les communautés catholiques sont diverses, parfois ultra-minoritaires comme en Indonésie où ils sont moins de 3%. Un voyage dont les thématiques fortes devraient être le dialogue interreligieux, la réconciliation comme au Timor oriental ou encore l'écologie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays d'Océanie, véritable périphérie comme les affectionne François, accueillera un pape 40 ans après la venue de Jean-Paul II. En janvier dernier, le souverain pontife avait confirmé sa volonté de se rendre une nouvelle fois en Asie. Certaines de ces étapes, comme l'Indonésie, étaient à l'agenda en 2020, mais avaient été annulées en raison de la pandémie de Covid-19. Ce voyage de 11 jours et 4 pays étapes sera le plus long du pontificat du pape argentin. Un véritable tour de force pour le souverain pontife de 87 ans après ses nombreux pépins de santé de ces derniers mois. En décembre dernier, François avait dû annuler à la dernière minute un déplacement à Dubaï à l'occasion de la conférence de l'ONU sur le climat. Éric Sénanque, Rome, RFI.
Dans l'actualité également, une première étape est franchie au Parlement de Pologne pour le droit à l'avortement. Pour l'instant, l'avortement n'est pas autorisé dans le pays, sauf en cas de viol ou d'inceste, ou encore si la vie de la mère est menacée. Des membres du Parlement, issus des partis pro-Union européenne, veulent changer ça en défendant 4 textes de loi pour donner plus de droits aux femmes sur ce sujet. L'opposition voulait les rejeter, mais les parlementaires n'ont pas suivi, et ces textes seront bien examinés au Parlement. Pour les organisations féministes du pays, c'est un moment historique car c'est la première fois qu'un projet arrive à cette étape depuis 1996 en Pologne. En France, à présent, il y a trop de patients dans les services d'urgence des hôpitaux, pas trop de patients et pas assez de moyens. Le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier universitaire de Strasbourg dans l'est du pays a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger cette semaine. C'est une plainte contre X, c'est-à-dire une plainte où on ne connaît pas l'identité de l'auteur des faits. Le nombre de patients, en effet, a doublé dans cet hôpital par rapport aux capacités d'accueil du service. Résultat, dans ces conditions de travail dégradées, les personnels médicaux mettent leur propre santé en jeu et ne peuvent plus faire leur métier correctement. Christian Prudhomme est secrétaire général du syndicat Force ouvrière des hôpitaux universitaires de Strasbourg et il espère que les autorités vont prendre leurs responsabilités. Écoutez.
Sur le CHU Strasbourg, on a fermé 800 lits sur 10 ans. Et en plus, depuis la sortie de Covid, où on a été très fortement impacté, on a une fuite de professionnels. Donc on a des lits fermés pour raison de ressources humaines. Et il peut y avoir des difficultés dans ces prises en charge avec des petits défauts de surveillance qui peuvent avoir de graves incidents. Donc ça met en difficulté les professionnels dans leur exercice de tous les jours, mais également les patients. Vous avez une stagnation des véhicules de secours qui se fait au niveau du sas d'entrée. Il y a 30 brancards et donc des fois on est monté à plus de 60 patients aux urgences, quoi. Donc on double. Et au mois de décembre, au moment où on avait dans un premier temps saisi la procureure de la République qui ne nous a pas répondu, une dame d'une quarantaine d'années a dû être réanimée dans le véhicule et a dû être transportée dans un autre hôpital à 30 km de distance parce qu'elle s'était dégradée pendant son temps d'attente.
Le secrétaire général du syndicat Force ouvrière des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Christian Prudhomme, il était interrogé par Amélie Beaucourt. En tennis, à présent, on connaît les 2 premiers demi-finalistes du tournoi de Monte-Carlo. C'est le grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur du russe Karen Khachanov, et l'italien Yannick Sinner, qui lui a sorti le danois Holger Rune en 3-7. Et c'est la fin de cette édition du journal En français facile. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pourrez le réécouter évidemment sur notre site internet rfi.fr et sur notre application mobile RFI Pure Radio. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal En France est facile sur la Radio du Monde. À très bientôt.